France Musique. Les grands entretiens, Jean-Baptiste Urbain. France Musique.
Montpellier, 24 janvier 1941, naissance de Isabelle Marielle Nordman, musicienne.
Marielle Nordman, vous avez raconté votre enfance, vos années au conservatoire, votre rencontre avec Lily Laskin, et puis 17, 18 ans, vous entrez dans un trio avec un flûtiste et un violoncelliste, un trio qui va apporter votre nom, le trio Nordman, 15 ans, vous nous disiez. Comment ça se passe ces 15 années à tourner partout en France, dans le monde entier, à Troyes?
C'est une expérience absolument merveilleuse, parce qu'au lieu d'être un musicien solitaire, de travailler chez soi, pour soi, d'être tout seul, tout d'un coup, le solitaire se trouve dans la situation de pouvoir partager son travail, avec des répétitions qui interviennent évidemment de façon très 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 fréquente, et tout un répertoire à monter. Et ça, c'est une découverte pour le jeune musicien. Je crois que c'est d'une importance extrême, parce que l'enfance d'un enfant musicien est une enfance terriblement solitaire, terriblement axée sur l'obligation de jouer le plus parfaitement possible d'un instrument, et avec des œillères complètes sur la vie à droite et à gauche, parce qu'il faut absolument que la perfection arrive, que ce sont des moments, quand on se retourne, sont des moments qui sont, je pense, très douloureux pour un enfant, parce qu'il a envie d'avoir des petits copains, il a envie de pouvoir sortir, de pouvoir vivre, en fait. Et il vit, mais il vit avec un axe qui est tellement déterminé, qui est tellement défini, qu'il risque peut-être d'oublier ce que peut être la vie. Donc moi je découvre vers 17-18 ans ce formidable potentiel qu'est la musique de chambre. Et donc la deuxième année de ma musique de chambre, j'ai été contactée par un trio, qui était un trio flûte, violoncelle et harpe, avec André Gilbert et Bernard Fontenay, qui venaient de perdre, entre guillemets, leur harpiste. Et donc, je suis rentrée dans ce trio, avec lequel je suis restée 15 ans.
Et voilà.
Ça va s'appeler le trio Nordman, au bout d'un moment, parce que, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je commençais déjà à faire pas mal de choses dans pas mal de domaines. Est-ce que j'étais un peu moins inconnue, ou est-ce que c'était de la galanterie? J'ai la chance, surtout, de tout de suite arriver dans un trio qui est déjà formé, puisque je remplace une harpiste, et avec des dates de concert, avec des partenaires enthousiastes de pouvoir former ce trio. Et ça dure vraiment très très longtemps, pendant 15 ans, et il y a eu 7 violoncellistes différents.
Thank you.
avait donc très peu de répertoire quand on a commencé, peut-être juste, deux ou trois trios classiques et deux ou trois trios contemporains, et puis il n'y avait strictement rien d'autre. Et en 15 ans, nous avons réussi à nous faire écrire et à jouer, je vous laisse imaginer ce que ça représente, plus de 40 trios qui ont été écrits spécialement pour le trio Nordman.
Pour flûte, violoncelle et harpe.
Voilà, flûte, violoncelle et harpe, donc qui était une formation qui n'existait pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu comme chance aussi, c'est de passer une audition. On a eu deux chances très importantes. On a eu la première, c'était de passer une audition pour les jeunesses musicales de France de l'époque, qui ont été, je pense, séduits par l'âge qu'on avait. Et deuxième chose, à l'époque, c'était Jacques Charpentier, qui était le grand ponte de la musique en France. Ils ont décidé de sponsoriser pour quelques années un certain nombre d'ensembles déjà constitués. Et au bout de quelques années, nous avons fait partie de ces ensembles qui étaient pris en charge par le ministère et donc avec une feuille de route qui nous obligeait à donner X concerts dans l'année. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. On a été au Japon, on a été au Canada, on a été pratiquement dans toute l'Europe. Et à l'époque, il faut juste s'imaginer ce que ça peut représenter que de se balader avec une harpe et de faire des voyages souvent en voiture ou en avion, avec tout ce que ça représente d'impossibilité de se balader avec un instrument comme ça. Mettre l'harpe sur des bateaux. Moi, j'ai gardé de cette époque-là un souvenir extrêmement joyeux, extrêmement fraternel. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé parce que tous ces trios, ces 40, plus de 40 trios qui ont été écrits pour nous, on les a créés. Et c'est un travail absolument énorme. Et donc, en même temps, ça apportait du répertoire aux harpistes.
Le trio Nordman, Marielle Nordman harpe, André Gilbert flûte et Renaud Fontanarosa violoncelle.
Et vous aviez le temps, Marie Norman, de faire d'autres choses en parallèle ?
Oui, j'ai fait trois enfants, oui.
Pendant cette période.
Trois choses elle a appris dans sa vie. Elle a appris à jouer de la harpe, elle a appris à faire des enfants, et elle a appris à bien conduire une voiture. Voilà. Ça, ces trois choses-là, ça va à peu près. Le reste, il y a beaucoup, 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 beaucoup à dire. Mais c'est une vie trépidante, oui. Et puis, je me suis mariée avec Patrice Fontanarosa. Il n'était pas un monsieur anodin, entre guillemets, puisqu'il avait lui-même une très grande carrière, déjà aussi bien de soliste que de chambriste avec son trio.
Que vous avez rencontré au conservatoire ?
Alors, on s'est connus quand on avait 11 ans. Moi, j'étais moche comme un pou, mais vraiment. Mais alors, c'était horrible, parce que je pouvais jusqu'à 16 ans, j'étais un véritable désastre. Et lui, il était déjà la coqueluche de toutes ces dames. Il jouait bien, il était beau, il était gentil, etc. Il me faisait rire quand j'étais à l'orchestre, et ça me faisait louper des traits, donc là, déjà, c'était pas bien. Voilà, enfin, on a attendu quand même 10 ans après pour se marier. Entre le moment où on a commencé à faire un peu de musique ensemble et puis le moment où on a décidé de faire des enfants. On va dire ça comme ça.
Trois enfants, trois musiciens.
Trois enfants, trois musiciens. Voilà. Trois enfants, trois ans et demi, j'ajoute quand même. Tout en continuant à jouer.
Et le trio Nordman, lui, pourquoi ça
alors, il s'est arrêté, c'était moi. Je me suis aperçue un jour sur scène que je m'ennuyais un peu. Et ça a toujours été un signal d'alarme, et ça voulait dire que j'avais peut-être fait le tour quelque part. Et donc ça s'est arrêté, et le trio a continué pendant un petit temps avec Martine Géliot. Mais c'était, Non, ça a été une très belle expérience, et toujours vraiment sur tous les plans. Et d'ailleurs, mes deux coéquipiers restent toujours des amis pour l'éternité. Vraiment, on a tellement partagé de choses.
France Musique, les grands entretiens de Marielle Nordman.
Vous parliez de l'orchestre, donc vous étiez aussi en orchestre.
Alors, c'était l'orchestre des cadets du conservatoire, donc ça m'a appris effectivement à faire de l'orchestre, et c'était formidable évidemment. J'ai souvenir de Daphnis et Chloé en particulier, une très belle partie de harpe, et d'être prise dans une espèce de vague comme ça de musique, et c'est vraiment vraiment magnifique. Et puis c'est une discipline, et puis ça permet de savoir compter. Les harpistes doivent savoir très bien compter, et puis c'est une grande famille, un orchestre, et ça c'est formidable. Et quand ça a été fini, après ça, je suis entrée à l'orchestre Padeloup, où je suis restée pas très longtemps, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans, et après ça il y a eu un concours de circonstances assez, on va dire, assez désagréable. Je me suis fait éjecter de l'orchestre pour absence.
À cause du trio ?
Non, ce n'était pas à cause du trio, c'est parce que mon frère avait eu un accident de voiture gravissime, mais vraiment gravissime. Il a fait des tonneaux avec une voiture décapotable, donc je vous laisse imaginer dans quel état il était. Et j'ai été obligée d'aller près de lui, parce qu'il n'y avait plus personne pour le faire. Et comme j'étais à l'orchestre, quelqu'un a dit que je n'étais pas partie m'occuper de mon frère, mais que j'étais partie faire du ski. Donc je me suis fait éjecter, et c'était pas vrai. Et sur le moment même, ça m'avait fait beaucoup de mal qu'on ne croit pas. Mais entre-temps, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puisque je faisais partie de l'ensemble polyphonique de l'ORTF avec Charles Ravier, qui était un homme absolument extraordinaire, complètement fou, mais vraiment une espèce de génie, je pense, qui était tout le temps en train d'imaginer 1000 choses différentes, d'écrire des partitions originales du XIIIe siècle qui posaient sur le pupitre.
Vous voulez que je m'arrête ? C'était quoi le répertoire de cet ensemble polyphonique ?
Alors, c'était un répertoire très particulier, puisque ça allait du 11e, 12e, 13e, 15e siècle. Donc, énormément de musique médiévale, de musique de la Renaissance, avec un ensemble d'instruments anciens. Donc là, je jouais d'une toute petite harpe, d'une harpe irlandaise. Et ça, j'ai beaucoup tourné avec eux. On a fait beaucoup de disques et c'était merveilleux parce qu'il y avait un quintet vocal, quatuor ou quintet vocal. Et puis, on était, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 musiciens. C'est très, très peu, quelques instruments anciens. Flûte à bec, il y avait des instruments à cordes, il devait y avoir... Ça, j'ai des souvenirs de Monteverdi et de Gesualdo, mais à pleurer tellement, tellement c'était beau.
Thank you.
Et puis Ravier non seulement faisait de la musique de cette époque-là, mais aussi de la musique contemporaine, enfin, de cette époque-là. Donc. Et on a créé beaucoup de choses qui étaient écrites spécialement pour l'ensemble polyphonique, avec aussi par moments des choses un peu étranges avec des compositeurs quand j'allais les voir en disant mais maître je peux pas jouer ce que vous avez écrit, non mais ça fait rien, faites ce que vous pouvez. Alors là quand on me disait ça il fallait pas me le dire deux fois parce que je faisais un petit peu la buse, je mettais la harpe en do bémol majeur, c'est-à-dire je mettais toutes les pédales au repos parce qu'en général il y avait trois pédales par note et que c'était impossible et je jouais enfin plus ou moins ce qu'il y avait écrit et quand j'allais voir en disant est-ce que comme ça va, c'est parfait, ne changez rien. Donc là ça m'a quand même ouvert un peu les yeux sur ce que voulaient réellement les compositeurs à l'époque, je me souviens. J'étais un petit peu étonnée. Parallèlement à ça, je faisais partie d'un ensemble de musique d'avant-garde qui s'appelait l'ensemble, qui était dirigé par Simonovitch. Et on a été, c'est nous qui avons créé, si ma mémoire est bonne, j'en suis pas très très sûre, une œuvre de Xenakis qu'il avait mis en équation dans un ordinateur. Et c'était pareil, c'était absolument... Enfin, moi, je pensais que c'était complètement injouable à la harpe. Et j'avais été le dire. Et il m'avait dit, mais c'est normal, parce que ce sont des mathématiques, encore une fois. Faites ce que vous pouvez. Donc, voilà, dans ces cas-là, je faisais le minimum vital pour que ça soit... que ça ait l'air de passer. Et que ça passe le mieux possible.
Vous faisiez comme Lily Askin aussi de la musique de variété, de la musique de film ?
Oui.
Mais... Quels souvenirs vous en avez ?
Oui. Alors, j'ai un grand souvenir de variété avec Michel Legrand. Et je crois que c'est Aznavour qui chantait, c'était à l'Olympia. Mais là, j'étais. Alors, pour le coup, je devais avoir 13 ou 14 ans. Hein. Laskin m'avait envoyé faire la harpe. Et il s'est passé un truc absolument mais abominable. C'était très tard, enfin, ça me semblait très tard, en tout cas pour la petite fille que j'étais, la toute petite jeune fille que j'étais. Et en fait, je me suis endormie au pupitre. Et j'ai été réveillée par un silence total. Et en fait, c'était un solo que j'avais à faire. Et j'ai ouvert les yeux et je me souviendrai toujours de la tête de Michel Legrand qui me regardait avec des yeux qui lançaient des éclairs. Et le temps que je réalise, le solo était passé et je ne l'ai pas joué. Et je vais rappeler ça. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, lui ne se souvenait plus. Mais ça, moi je me suis bien souvenu de l'épouvante en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Puis qu'est-ce que je fais? Oui, mais c'était aussi l'époque, 15, 16 ans. Sortie du premier prix de harpe, où j'étais harpiste à Mogador, et je jouais les opérettes. En fait, c'était l'éducation à Laskin.
Marielle Nordman, à quel moment et dans quelles circonstances vous commencez à jouer en duo avec votre maître, avec un grand M, Lily Laskin?
Assez tard, hein. Assez tard, curieusement, parce que ça, c'était aussi sa façon de voir les choses. Elle ne voulait pas privilégier un élève ou un étudiant plus qu'un autre. Elle était très respectueuse des gens qu'elle faisait travailler. Et il a fallu attendre, peut-être bien que j'ai 30 ans, pour qu'on commence à faire quelques concerts et qu'on s'aperçoive que c'était tellement évident que, voilà, pourquoi pas. Et puis, il y a eu cet épisode assez rigolo qui a fait que, ben voilà, que je suis rentrée chez Erato, par le biais naturellement de Lily Askin, et que nous avons fait notre premier disque, je crois que j'avais 32 ans. Erato, grande maison de disques française, avec le merveilleux Michel Garcin, qui en était le directeur artistique, et qui était un grand, grand, grand ami de Laskin. Voilà, bon, il y a une petite anecdote, mais qui n'est pas forcément très rigolote à raconter, simplement. Moi, j'ai fait la connaissance de Michel Garcin en tournant les pages de Madame Laskin, cours d'un récital qu'elle donnait, et je revenais d'un mois de camping avec les enfants, je n'avais pas touché la harpe. Et à la fin du récital, ça c'était tout Lesquine, avec un grand sourire, elle a dit, voilà, j'ai le plaisir de vous présenter une grande amie et élève, voilà, Marielle, qui va se faire un plaisir de vous jouer quelque chose. Ah, non, non, madame Lesquine, surtout pas, là, j'ai pas touché l'harpe depuis un mois, là, pas question, je peux pas jouer du tout. Si, elle est toujours très modeste, et puis elle m'a assise à l'harpe, et il a fallu que je joue. À la fin du petit morceau, j'ai joué comme j'ai pu. Garcin est arrivé en me disant, ma chère Maria, je serais très heureux de pouvoir faire un disque avec vous. J'ai fait un disque tout seul, et ensuite on a fait un disque toutes les deux, et ensuite on a fait 10 ans de récital, de duo, voilà, et on partait en voiture, toutes les deux, et avec les deux harpes dans la voiture. Et voilà, et madame Lesquine, qui était toujours d'une humeur extraordinaire, qui n'était jamais fatiguée, qui n'avait jamais faim, qui n'avait jamais soif. Et là, j'ai vraiment tout appris en faisant tous ces voyages avec elle. Et en plus, on partageait la même chambre, donc ça aussi, c'était tout à fait extraordinaire, parce que madame Lesquine dormait très peu, parce que c'était déjà quand même une dame d'un âge certain. Moi, je tombais de sommeil. Et le matin, à 6h du matin, elle se levait, elle enfilait ses mules, clac, 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 elle venait me voir, elle me tapait sur les paumes en disant « Tu dors, ma chérie ?»« Oui, madame Lesquine, je dors !» Énormément, hein. Je ne me rends pas compte du volant d'action qu'on avait, mais on donnait certainement 20 ou 25 concerts par an, largement, toutes les deux, en se baladant comme ça un peu partout. Et on ne répétait jamais, jamais. On a monté les œuvres en une ou deux répétitions, et après ça, je disais, mais madame Lesquine, il faudrait qu'on travaille, parce que moi, je ne peux pas jouer comme ça. Elle me disait, mais ma chérie, il n'y a aucun problème, tu n'as qu'à m'écouter. Et elle avait raison. Et ça, ce sont les plus beaux enseignements de musique de chambre aussi. Je l'écoutais jouer, j'avais juste à faire la même chose, à essayer de me fondre dans ce qu'elle me proposait. Voilà, il n'y a plus rien à dire, il n'y a même pas de mots dans ces cas-là. C'est vraiment la musique qui parle. On a sillonné la France dans absolument dans tous les sens. On allait tout le temps à la Chaise-Dieu, on était pratiquement tous les ans à la Chaise-Dieu. Voilà, il y a plein comme ça de festivals qui la redemandaient. Elle était tellement joyeuse, c'était une personne très... Elle était très gourmande en plus, elle adorait bien manger, elle adorait bien boire aussi. C'était quelqu'un que tout le monde avait envie d'avoir avec soi.
Comment ce duo s'est-il arrêté ?
Il s'est arrêté, Lesquine avait 90 ans, elle avait 90 ans au mois d'août, et au mois de janvier, moi j'ai eu un accident de voiture, très grave, puisque j'ai eu le coup du lapin. Et que ma tête a été touchée, ma colonne vertébrale en arrière, j'avais pas d'appui-tête. Je me suis arrêtée pendant pas mal de temps, et ensuite, elle a eu un AVC. Et donc ça s'est arrêté. Peut-être fallait-il que cela s'arrête. C'était tellement touchant, c'était tellement joyeux, c'était tellement tendre. C'était, enfin, je sais pas, j'ai pas de mots. Je parle d'elle comme si, comme voilà, j'étais amoureuse. J'ai été amoureuse d'elle pendant 35 ans. Quoi, vraiment. Et c'est une femme qui ne m'a jamais déçue, jamais. Et de qui je peux dire ça dans ma vie?
Alphonse Asselmans, Follet, opus 48, par Lydie Daskin et Marielle Nordman à la harpe. Vous retrouvez la programmation de cette émission sur francemusique.fr, sur la page des grands entretiens, où vous pouvez réécouter cette série. À la prise de son, il y avait Olivia Branger, attachée de production Marion Guillemet, mixage Valérie Lavalard, réalisation Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.